Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent en ce mois de février 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corolle, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Le variant amazonien du coronavirus détecté en Argentine. Le candidat de l'ancien président Rafael Correa a remporté l'élection en Équateur, mais il y aura un second tour le 11 avril. La tension continue au Chili après l'assassinat d'un artiste de rue par la police. Le feu de forêt dans le nord de la Patagonie n'a toujours pas été éteint. L'Église catholique a considéré comme non valide le mariage d'un homme et d'une femme trans en terre de feu. Lionel Messi nommé meilleur footballeur de la décennie. Des variants brésiliens du coronavirus ont été détectés en Argentine, selon le ministre de la Santé, Ginés González García. Il s'agit de mutations du virus plus contagieuses que l'original trouvé en Chine il y a plus d'un an. Le ministre a annoncé que l'Institut bactériologique Malbran avait découvert les variants dits d'Amazonie et de Rio dans des prélèvements effectués sur des voyageurs en provenance du Brésil. Dans le cas de la souche également connue sous le nom de Manaus, il n'y a pas de circulation communautaire, ce qui signifie que pour l'instant, il n'y a pas eu de contagion locale. Il en va de même pour le variant britannique, dont un seul cas a été confirmé en Argentine. Concernant la campagne de vaccination, González García a déclaré que l'Argentine recevra cette année plus de 60 millions de doses, principalement du Sputnik V et de l'AstraZeneca. Il l'a dit en présentant au Congrès un rapport sur la stratégie officielle de lutte contre la pandémie du Covid-19, où il a anticipé que tous les Argentins de plus de 18 ans seront vaccinés cette année. À propos de Sputnik V, le président argentin Alberto Fernández a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine et il a félicité l'Institut Gamaleya pour le vaccin qui, selon The Lancet, est efficace à plus de 91%. Selon des sources officielles, Fernández et Poutine ont évoqué la possibilité de commencer à fabriquer l'inoculant en Argentine en juillet. Ces derniers jours, le président a également contacté son homologue français Emmanuel Macron. Comme Fernández l'a révélé sur Twitter, Buenos Aires et Paris estiment que les vaccins devraient être un bien mondial, sans propriété intellectuelle, pour garantir l'accès des pays en développement. Mardi, le président argentin a rappelé les critiques que son gouvernement a reçues pour l'approbation rapide accordée à Sputnik V, dont la sécurité a été mise en doute par l'opposition. Il y a deux semaines, j'étais un empoisonneur en série, et aujourd'hui, on me demande d'empoisonner tous les Argentins, a déclaré ironiquement Fernández. En outre, l'Agence argentine de réglementation des médicaments, l'ANMAT, a donné une autorisation d'urgence pour un autre vaccin, Covid Shield, d'origine indienne. Par ailleurs, la semaine prochaine, les écoles rouvriront dans la ville de Buenos Aires. Le premier district d'Argentine a commencé l'année scolaire après un 2020 de classes virtuelles. Le gouvernement de la capitale a conclu un accord avec les syndicats d'enseignants sur les protocoles de santé pour garantir que tous les étudiants seront présents au moins 4 heures par jour. Chaque classe sera considérée comme une bulle qu'il faut maintenir isolée des autres et l'utilisation d'un masque sera obligatoire. La température sera prise à l'entrée de l'école et toutes les portes et fenêtres doivent être maintenues ouvertes en permanence. Les enseignants, quant à eux, devront également être testés tous les 15 jours. Après un pic de nombre de cas pendant les vacances de fin d'année, la situation épidémiologique en Argentine s'est à nouveau ralentie avec une moyenne de 7000 cas par jour. Les autorités sanitaires et les épidémiologistes considèrent que le nombre est encore élevé et préviennent qu'il existe toujours un risque de seconde vague avec la réouverture des écoles et l'arrivée du froid. En Équateur, Andrés Arauz a été le candidat le plus voté lors des élections du 7 février avec plus de 32% des voix. L'économiste de centre-gauche avait plus de 12 points d'avance sur ses plus proches rivaux, mais il n'a pas réussi à s'imposer au premier tour. Cela signifie qu'il y aura un ballottage le 11 avril entre Arauz et un rival qui reste à déterminer. La deuxième place est disputée par l'ancien banquier Ernesto Lasso, de centre-droit, et le leader indigène et activiste environnemental Yacu Pérez. Tous deux ont 20% des voix et un recomptage manuel devrait déterminer qui ira au second tour. Arauz a le soutien de l'ancien président Rafael Correa, qui a gouverné le pays sud-américain entre 2007 et 2017 et jouit toujours d'une grande popularité. Correa réside en Belgique et pèse sur lui une condamnation pour corruption qu'il dénonce comme une opération montée par son successeur Lénine Moreno. Pour sa part, Lasso se présente pour la troisième fois à la présidence et promet d'attirer les investissements étrangers en Équateur. À son tour, Yacu Pérez veut devenir le premier président indigène de l'histoire de l'Équateur et veut limiter l'activité minière et pétrolière pour protéger l'environnement. Le Chili continue d'être en état de commotion par le meurtre d'un jongleur de rue aux mains de la principale force de sécurité du pays sud-américain, les carabiniers. Le crime s'est produit la semaine dernière à Panguipulli, à 800 km au sud de la capitale Santiago. La victime, identifiée comme étant Francisco Pancho Martínez Romero, 27 ans, se trouvait à un coin de rue et jonglait avec des sabres qui, selon ses amis et sa famille, étaient des accessoires. Deux officiers de police ont requis son identification et une confrontation s'en est suivie qui a été enregistrée sur les téléphones portables. Les images qui ont été diffusées montrent les officiers, leurs armes à la main, en train de tirer sur Romero, qui est mort d'une blessure par balle à la poitrine. Selon des sources policières, il s'agissait d'un acte d'autodéfense car les policiers pensaient que le jeune homme les attaquait avec de vraies armes blanches. Mais la mort de Ramirez a relancé les protestations contre les carabiniers qui ont un passé d'abus et de brutalité dans la répression des manifestations de rue. À Panguipulli, Maipú et Santiago, il y a eu des manifestations, des barricades, des incendies de bâtiments publics et des affrontements avec les forces de sécurité qui ont répondu par des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Le gouvernement du président Sebastián Piñera a annoncé une enquête approfondie sur l'affaire Panguipulli, pour laquelle l'un des policiers impliqués a déjà été arrêté. Par ailleurs, il y a également des troubles en Haïti. Le président Jovenel Moïse est réticent à quitter son poste, malgré une ordonnance de la Cour suprême déclarant son mandat de 5 ans terminé. C'est parce qu'il y a des divergences légales sur le moment où son gouvernement a commencé. Le 7 février 2016, comme le soutient l'opposition, ou le même jour de 2017, comme le prétend Moïse. Le président a dénoncé une tentative de coup d'État et ordonné l'arrestation de 20 personnes accusées de participer à un complot visant à le tuer. Après ces arrestations, les partis d'opposition ont appelé à de nouvelles manifestations de rue pour réclamer que le président quitte le pouvoir. Ils ont également nommé un gouvernement de transition dirigé par le juge Joseph Messène Jean-Louis. Après plus de 2 semaines, les incendies de forêt se poursuivent dans la région d'El Bolson, au nord de la Patagonie. En raison de la catastrophe environnementale, la gouverneure de la province de Rio Negro, Arabella Carreras, a déclaré l'état d'urgence car les vents, les températures supérieures à 35 degrés et la faible humidité favorisent la propagation de l'incendie. Carreras a fait remarquer que cela faisait plus de 50 ans que des conditions météorologiques comme celle de cet été n'avaient pas été enregistrées dans la région connue sous le nom de Comarca Andina, comté andin. 200 pompiers de la province y travaillent, soutenus par des équipes envoyées par le gouvernement national. Plus de 8000 hectares ont été dévorés par les flammes et des arbres sauvages tels que des lengas et des mélèzes vieux de plusieurs centaines d'années ont été perdus. Selon les autorités, une baisse de la température est attendue dans les jours qui viennent, ce qui améliorerait les perspectives d'éteindre l'incendie. L'Église catholique a considéré comme nul le mariage d'une femme trans et d'un homme dans une paroisse de la ville d'Ushuaia sur l'île de la Terre de Feu. La semaine dernière, Victoria Castro, 46 ans, a épousé Pablo López Silva, 54 ans, lors d'une cérémonie célébrée par le prêtre de la paroisse, Fabian Coleman. Castro a changé de sexe en 2013, 2 ans après avoir épousé López Silva dans une cérémonie civile grâce à la loi de 2010 sur le mariage pour tous. D'après ce qu'elle a dit à l'agence de presse Telam, elle était en attente de se marier à l'église car tous deux sont des catholiques pratiquants. Si la famille que nous avons avec Pablo n'a pas été construite par amour et avec la main de Dieu, alors dites-moi où est Dieu, a dit la femme, qui a adopté 3 enfants, aujourd'hui adolescents, avec son mari. Pour sa part, le père Coleman a affirmé au cours de son homélie « L'Église appartient à tous, et quand je dis tous, c'est tous ». Le gouverneur de la Terre de Feu, Gustavo Meleja, et plusieurs membres de son gouvernement, pour lequel le couple travaille, ont assisté à la cérémonie. Après le mariage, la plus haute autorité ecclésiastique de la région, l'évêché de Terre de Feu, a publié une déclaration niant la validité du mariage. Le texte précise que l'union de Castro et de López Silva ne correspond pas au sacrement du mariage tel que l'entend l'Église. Il rapporte également que le père Coleman a été informé pour avoir présidé le rite du mariage d'Ushuaïa. Sport. L'Argentin Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la décennie 2011-2020 par la Fédération internationale de statistiques et d'histoire du football. Selon l'entité basée en Suisse, l'attaquant du FC Barcelone a disputé la première place avec le Portugais Cristiano Ronaldo. Mais le joueur né à Rosario a été le plus voté par les experts des 150 pays. Parmi les 10 premiers figurent également des stars de la dernière décennie, comme le Brésilien Neymar, les Espagnols Andrés Iniesta et Sergio Ramos, le Croate Luka Modric et le Suédois Zlatan Ibrahimovic, entre autres. RAI présente « L'Amérique fait l'actualité ». Le Brésil va construire la plus grande usine de vaccins d'Amérique latine. Le gouvernement brésilien a lancé l'appel d'offres pour la construction à Rio de Janeiro de la plus grande usine de vaccins et de médicaments d'Amérique latine, un complexe dans lequel il compte investir 3,4 milliards de reais, environ 630 millions de dollars, et dont la construction devrait commencer au second semestre de cette année. Le ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, a souligné que le Brésil, le pays le plus frappé par la pandémie dans la région, construira le plus grand complexe industriel d'Amérique latine pour produire des intrants destinés à combattre le coronavirus et d'autres virus, a rapporté l'agence Sputnik. Le complexe industriel de biotechnologie de la santé occupera une superficie de 580 000 m² à Santa Cruz, un quartier de Rio de Janeiro, et sera relié à la fondation Oswaldo Cruz, Fiocruz, le plus grand centre de recherche médicale d'Amérique latine, qui dépend du ministère de la Santé du pays. Le complexe aura la capacité de produire 120 millions de vaccins et de produits biopharmaceutiques par an, soit le quadruple de la production actuelle de Fiocruz. C'est le laboratoire public qui a reçu la licence pour produire au Brésil initialement 100 millions de doses du vaccin contre le Covid-19 développé conjointement par la société pharmaceutique AstraZeneca et l'université d'Oxford. Bienvenue aux amis d'actualitédx.com.ar pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion.
Le monde change, la radio évolue. Depuis plus d'un siècle, la radio se fait l'écho de notre société. Des voix et des musiques rythment nos vies. Des émissions marquent leur temps. La radio traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation.
Le monde change, la radio innove. Avec les nouvelles technologies, la radio s'est adaptée à nos nouveaux comportements et modes de vie. Média de la mobilité, la radio est devenue multiplateforme, accessible à tous et partout.
Le monde change, la radio connecte. Lorsque les événements se bousculent, notre quotidien et nos habitudes sont bouleversés. Nous devons nous adapter. La radio nous rend de multiples services pour échanger, nous informer, nous relier.
En cette journée mondiale de la radio, l'UNESCO et votre station locale s'engagent pour que la radio continue d'évoluer, d'innover, de connecter. Nouveau monde, nouvelle radio. Pour plus d'informations, www.journeemondialederadio.org.
Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012 comme journée internationale, le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio. Elle a pour but de célébrer la radio en tant que média, de renforcer la coopération internationale entre les radiodiffuseurs et d'encourager les principales radios et réseaux communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des sexes sur les ondes. Alors que la radio continue d'évoluer à l'ère numérique, elle reste le média ayant la plus grande audience au monde. Comme nous le disons toujours, la radio est un moyen puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et fournit une plateforme pour le discours démocratique. Au niveau mondial, La radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique à toucher le plus grand nombre signifie que la radio peut façonner l'expérience de la diversité d'une société, se dresser comme une scène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Les radiodiffuseurs doivent servir des communautés diverses en offrant une grande variété de programmes, de points de vue et de contenus et refléter la diversité des publics dans leur organisation et leur activité. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2021, l'UNESCO appelle les radiodiffuseurs à célébrer le 10e anniversaire de cet événement et les plus de 100 ans de radio. Écoutons le message de la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay.
Bonjour, je suis Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Le 13 février, nous célébrons la radio, ce jeune média de 110 ans qui se réinvente sans cesse pour diffuser partout les cultures, les savoirs, l'information, les voix du monde. Où que vous soyez, la radio est avec vous, et encore plus dans ces temps confinés. C'est un outil précieux pour assurer aussi la transmission de l'information, ce bien commun de nos sociétés. Alors, très joyeuse Journée mondiale de la radio.
L'Agence spatiale bolivienne améliore le téléenseignement par satellite et offre un service Internet à des prix préférentiels aux municipalités éloignées, a déclaré le directeur de l'entité Ivan Zambrana. Dans une interview publiée par le système de radio et de télévision populaire RTB Bolivia, il a déclaré qu'il prévoit la croissance progressive des chaînes situées sur le satellite Tupac Katari du ministère de l'Éducation, avec un contenu qui atteindra les enfants et les jeunes des communautés rurales. Le satellite est un élément de connectivité utilisé principalement dans les endroits reculés où il n'y a pas d'autre option. Et pour recevoir un bon signal et profiter des chaînes gratuites, il faut avoir une antenne de 30 à 45 cm et anticiper Zambrana. Il a ajouté qu'il est également possible de se connecter à Internet par satellite, mais cela nécessite une antenne plus grande et l'ouverture d'un compte utilisateur auprès de l'agence. Ces derniers jours, l'agence a annoncé la possibilité de permettre à un maximum de 36 chaînes de télévision de suivre des cours à distance. Cette modalité a été introduite en raison de l'impact du Covid-19 dans le pays. Le 1er février a marqué le début de l'année scolaire atypique en Bolivie avec la mise en place de cours à distance soutenus par la télévision et la radio alors que le pays fait face au deuxième pic de la pandémie de Covid-19. RAE, l'Argentine vers le monde présente Chansons avec histoire. Aujourd'hui, la mano de Dios, la main de Dieu, un hymne pour Maradona. Le 25 janvier a marqué deux mois depuis la mort de la star mondiale de football Diego Maradona. Et comme pour chaque anniversaire, une chanson emblématique de la musique populaire sonnera à nouveau en tant qu'hommage. Il s'agit de La Mano de Dios, la main de Dieu, composée par Alejandro Romero et interprétée par Rodrigo, qui est mort à l'âge de 27 ans dans un accident de la route. La musique de Rodrigo fait partie d'un genre typique de la province de Córdoba, au centre du pays, appelé cuarteto, quatuor, né de la fusion de la musique et des instruments des immigrants italiens et espagnols qui ont peuplé cette région. Le cuarteto, considéré comme un genre mineur et extrêmement populaire, a réussi avec la figure de Rodrigo à consolider une certaine présence dans la ville et la banlieue de Buenos Aires. Avec son rythme joyeux et festif, même si les paroles décrivent l'exclusion sociale et peignent des tableaux d'histoire, de vie ou des amours brisés. La Mano de Dios était, selon les mots de Maradona lui-même, la chanson en son honneur qu'il aimait le plus et qui mieux le représentait. Les paroles décrivent la pauvreté d'où est sortie l'idole du football, sa lutte contre la cocaïne et sa magie unique dans les stades du monde entier. La Mano de Dios fait allusion au deuxième but aux Anglais que la star a marqué en équipe argentine lors de la Coupe du Monde de Mexique 86 remportée par notre pays. Un but controversé dans un match marqué par la rivalité historique entre l'Argentine et l'Angleterre pour l'usurpation des îles Malouines. Le but, l'idole, sont devenus une métaphore de David battant Goliath. Maradona était alors le visage d'un peuple dévasté par la dernière dictature civile militaire, terminée en 1983, et d'une jeune démocratie traversant une profonde crise économique. Écoutons un fragment interprété par Maradona lui-même à la première personne.
En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar.
A écouté la Mano de Dios pour la première fois en 2000 lors de son séjour à Cuba où il suivait un traitement de désintoxication. Rodrigo l'a visité et la lui a dédiée pendant la diffusion d'une émission de télévision argentine appelée Versus. Depuis lors, elle est devenue un hymne. L'anecdote de cette nuit festive raconte qu'une fois que Rodrigo a fini de chanter, un Maradona excité s'est approché de lui et lui a dit « La chanson que tu viens de faire pour moi, « Tu es un fils de pute ». La manière la plus forte et la plus maradonienne d'accepter son hommage. Écoutons complet cet hymne déjà profane, « La main de Dieu, la mano de Dios ».
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Dios! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su ardua deseo. Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Lleno de gloria.
L'Argentine vers le monde a présenté Chanson avec histoire. Aujourd'hui, La Mano de Dios, un hymne pour Maradona. Présentation, Eric Domergue. Production et web, Silvana Avellaneda et Julien Cortés. Édition, Fabian Panici. Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, L'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.